I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler ensemble de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de succès où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce format que j'apprécie tant pendant une heure, deux fois par mois. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'histoire d'Alexis, dont la compagne Julia a accouché à domicile. Il raconte son cheminement vers la paternité et explique son besoin d'achever des étapes professionnelles et personnelles avant de devenir papa. Alexis naturaliste de profession et son objectif c'était notamment d'observer des ours avant de procréer. Bah oui, pourquoi pas après tout. Il explique aussi le processus pour organiser cet accouchement à domicile, le rôle particulier que joue le père dans celui-ci et aussi à quel point l'autonomie l'a aidé à créer un contact avec sa future fille. Enfin, en grand amoureux et observateur de la nature, il m'explique la décision de faire un enfant dans cette période trouble pour l'humanité, qui est un sujet qui devient de plus en plus récurrent dans ce podcast. Un grand merci à Alexis pour son temps, ses explications. J'espère que cet épisode vous plaira. On est avec Alexis. Salut Alexis.
Salut Fabrice.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, ça va très bien. Merci beaucoup Alexis d'avoir envoyé un petit mail intitulé « Témoignage accouchement à domicile » et je me suis dit « Yes, on n'a pas encore eu en plus de 60 épisodes témoignage d'accouchement à domicile ». Donc, t'es le premier. Est-ce que tu peux te présenter peut-être ?
J'ai 30 ans, je suis naturaliste de passion et de profession.
Ça, tu vas devoir nous expliquer ce que c'est après. Hein, mais...
ouais, exactement. Et puis, à part ça, c'est banal, quoi. J'ai envie de dire, j'ai rien d'extraordinaire.
Comment ça, c'est banal?
Bah, à part le fait de, voilà, d'avoir une vie de naturaliste, à côté, je suis classique, quoi. Hein. Je veux dire, je suis pas déconnecté de la société ou quoi, ou qu'est-ce.
Ah, mais pourquoi tu dis ça? Parce que les gens te disent en général, quand tu es naturaliste, quand tu leur présentes ton métier, ils te disent, tu vis.
Ouais, on est un peu bizarre. Tu le verras dans mes explications, on est un peu chelou comme communauté. Voilà quoi, on est sensible à d'autres choses. C'est intéressant, mais ça pose aussi des questions.
Alors, tu peux expliquer ce que c'est, naturaliste ? Ça n'a rien à voir avec naturiste, on est bien d'accord.
Ouais, exactement, voilà.
J'avais dû te la faire, celle-là, je pense.
Juste 1000 fois par an.
Désolé.
En fait, c'est assez simple. Ça consiste à observer, étudier... protéger la faune sauvage, quoi. Donc voilà, c'est certainement la plus vieille activité de l'humanité, j'ai envie de dire, d'observer son environnement, d'y être sensible, attaché. Et puis après, moi, dans mon métier, bah, c'est poussé de manière plus, on va dire, scientifique, où on s'occupe généralement d'espèces en danger, qu'on essaye de sauver. Mais bon, l'état de notre environnement est tel qu'il est aujourd'hui... C'est mal barré, mais on s'accroche.
T'es à ce point-là, enfin on en reparlera sans doute après, mais t'es à ce point-là peu confiant et peu optimiste, c'est ça ?
Si, je suis optimiste parce que sinon j'arrêterais, mais les constats de tous les jours encouragent pas cet optimisme-là, quoi.
Ok.
Et en fait, voilà, quand les gens parlent du changement climatique ou de la perte de notre environnement, c'est pour nous qui travaillons et qui avons la tête dedans tous les jours, ça prend une autre dimension, quoi. C'est beaucoup plus concret.
Dans quel sens ?
Dans le sens où je vois les animaux disparaître, je vois les environnements changer, le climat, les saisons changer et le stress que ça occasionne sur nous, sur nos sociétés, et le fait que c'est un des facteurs qui influence le plus notre mode de vie sans qu'on s'en rende compte, surtout par exemple si on habite en ville, okay. Mais qui se ressent quand même en ville, et que les gens prêtent pas attention parce qu'ils se disent que ça vient d'autres facteurs. Mais en fait, la base, elle vient de là, quoi.
Et tu dis qu'à ton échelle, donc j'imagine qu'il est pas très grande, entre guillemets, c'est-à-dire à l'échelle de ta taille, toi, tu vois des animaux disparaître.
Ouais, exactement.
Dans ton travail au quotidien.
Ouais, quasiment tous les jours, en fait. Parce qu'on fait des suivis, en fait, de population et on voit les tendances.
Okay.
Et on voit que ça chute, quoi. Et tous les ans, tu repasses sur les mêmes sites et tu vois qu'il y a moins de couples de telle ou telle espèce. Telle espèce qui était facile à voir, tu la vois plus du tout. Et on va dire que ça, c'est à mon échelle. Et puis après, à l'échelle, on va dire, de la société, c'est ce qu'on vient de subir, quoi. C'est le coronavirus, qui est une maladie qui est issue de la pression sur la biodiversité. Et qui nous a pété en plein visage, quoi. Donc, nous, quand c'est arrivé, on n'était pas surpris du tout. Et on avait un temps d'avance sur, on va dire, sur l'esprit de ce qui allait se passer pour nous. Et que c'est que la première série de ce qui pourrait se passer, quoi.
Ok, donc, bon, écoute...
On va pas parler trop longtemps.
C'est trop bien de t'inviter, Alexis, vraiment, excellent vibe.
Non, mais il y a du positif aussi, en fait, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent pour ça.
Ouais. Et j'allais dire, donc, surtout, ce qui est très intéressant, c'est que malgré tout ça, t'as fait un enfant.
Ouais, la pire décision écologique de ma vie, mais qu'on a prise quand même.
Ouais.
Je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou
pas. En fait, on en reparlera un petit peu plus après, si tu veux. Ouais. Mais parce que si j'ai bien compris dans ton mail, donc que tu m'as envoyé début mai, tu es tout jeune papa.
Ouais, c'est ça. Je suis papa d'une petite fille qui a un petit peu plus d'un mois maintenant, donc c'est tout frais.
Ok.
Voilà, né pendant le confinement, mais comme beaucoup de bébés, je pense.
Oui, il y a eu plein de bébés, je pense, qui sont nés pendant ces deux mois et demi de confinement, quoi. L'une des particularités, en fait, de votre accouchement, c'est qu'effectivement, vous avez accouché en plein confinement, mais à domicile.
Voilà, mais c'était pas du tout lié.
Oui, j'imagine que c'est pas une décision que vous avez prise un mois avant, quoi. C'était.
Non, exactement. C'était une préparation depuis le début, j'ai envie de dire.
Ok. Est-ce qu'on peut. On va en reparler, hein, mais c'est juste pour planter un peu le décor. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, de ton côté, d'où t'es venue, en fait, cette envie d'enfant?
Je pense qu'elle est assez lointaine. Je pense que dès l'adolescence, je pense que je me projetais comme papa. Parce que j'ai toujours adoré les enfants. Je me suis toujours intéressé à eux. Je suis moi-même un grand enfant.
À quel âge, au fait ?
T'as pas demandé. J'ai 30 ans.
Ok.
Voilà. Et puis après, ce qui est bizarre, c'est que cette envie d'enfant, elle s'est un peu estompée, on va dire, arrivée à la vingtaine, où là, j'ai pu commencer à m'épanouir dans ma passion. Et là où je me suis dit, il faut que je prenne le temps pour moi d'avoir un enfant. Donc, j'ai commencé à faire des plans. Je me suis dit, voilà, ce ne sera pas avant mes 30 ans. Et puis il faut que je me sente prêt, quoi. Donc, dans ma tête, je m'étais mis des paliers, des sortes de niveaux à atteindre. Et quand j'aurai coché tous ces niveaux, je me suis dit, là, ce sera le moment, ce sera prêt. Et puis,
est-ce que t'es un joueur de jeux vidéo, Alexis?
J'étais, ouais.
Ça sent vraiment le gars qui dit, ok, faut que je monte de niveau en niveau, comme dans World of Warcraft, tu sais.
Ouais, exactement. Il fallait que je me sente pleinement prêt. Et surtout, je voulais pas me dire, je voulais pas en faire trop tôt pour pas regretter une vie de jeune adulte. Dans laquelle on peut faire plein de choses. Voilà, je voulais qu'il y ait avant tout un accomplissement personnel et des rêves, en fait. Accomplir ces niveaux, c'était des rêves à chaque fois à atteindre. Et à chaque fois que j'en atteignais un, hop, c'était un pas de plus vers ce sentiment d'être prêt.
Ok, mais alors, c'était quoi, par exemple, les niveaux?
Non, mais alors c'est là où tu vas comprendre que les naturalistes sont chelous. C'est que moi, mon rêve, c'est d'observer des animaux sauvages. Donc je m'étais dit, j'aurais pas d'enfant avant d'avoir vu de l'ours, du loup et du lynx. C'était le triptyque, c'était le triangle, mon triangle de rêve qu'il fallait que j'atteigne. avant de me dire ok.
Mais c'était une sorte, c'était une sorte d'accomplissement professionnel, c'est ça, pour toi?
Non, parce que voilà, moi je mélange passion et profession. J'ai de la chance que ma passion soit devenue au fil des ans ma profession.
Bravo.
Et dans ma profession, ces rêves-là étaient inatteignables. Hein. En France ou dans ma Bourgogne, il n'y a pas tous ces, toutes ces bestioles-là. Et donc du coup, c'était des quêtes, des voyages à chaque fois, dans lesquels je grandissais à chaque voyage. Je pouvais me prouver que j'étais capable voilà, de partir à l'étranger, de me plonger dans une nature un peu plus sauvage que chez nous, de rentrer en contact avec ces animaux-là. Et à chaque fois que je revenais, voilà, j'avais un niveau de plus dans mes bagages. Et puis voilà, puis quand je les ai eus, je me suis dit, c'est bon, je suis prêt, quoi.
Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres paliers ou d'autres niveaux, que des exemples de niveaux que tu pourrais nous partager?
Non, à part ces quêtes d'animaux sauvages, du coup, qui m'ont emmené assez loin sur la planète, jusqu'à quasiment le pôle Nord, j'avais juste envie, voilà, de profiter entre mes 20 et 30 ans où tout est possible, des copains, des voyages, et puis aussi d'attendre d'être avec la bonne personne, d'apprendre à vivre avec elle avant d'avoir un enfant, parce que quand les enfants partent de la maison, je trouve qu'il y a des couples qui en fait ont eu des enfants trop tôt et savent pas vraiment vivre longtemps ensemble à deux. Et le départ des enfants, ça peut être dur. Donc voilà, et je voulais aussi que ma compagne a fait des études assez longues, et je voulais aussi qu'elle profite un peu de la vie de jeune actif sans avoir les contraintes de la parentalité, entre guillemets.
D'accord. Ok.
Voilà.
Bah c'est un chouette projet, hein.
Ouais, bah voilà, moi je voulais pas qu'à 40, 50 ans, je me retourne et je me dise, voilà, je me suis pas accompli, je regrette, et puis péter en plein vol parce que je m'aperçois que je suis plus près de la fin que du début et qu'il faut que je fasse les choses, quoi. Donc je voulais pouvoir être serein, et surtout pas avoir un enfant et envie de faire 10 000 trucs, faire des grands voyages tout seul, et que je sois absent, en fait. Voilà, j'ai un peu peur aussi de ça. C'est un peu le risque quand on vit pleinement une passion au quotidien, c'est d'être absent. Donc il vaut mieux que je m'accomplisse avant et être présent pour elle maintenant, plutôt que j'ai toujours quelque chose qui me démange et que je sois toujours obligé de partir alors qu'elle est là, quoi.
Mais donc ça veut dire que aujourd'hui, et on va reparler un peu plus de la grossesse après, mais ça veut dire qu'aujourd'hui t'as la sensation de t'être accompli professionnellement, ou en tout cas par rapport à ta passion de naturaliste, et que t'es arrivé, j'allais dire, au top du top de ce que t'avais envie de faire, c'est ça?
Pas au top.
Parce que t'es encore
top,
jeune,
mais...
tu vois, dans ma tête.
Ouais, mais je me sens déjà rassasié.
Ok.
Et je me dis, si pour X ou Y raison, je peux plus voyager, je peux plus vivre d'aventure, bah c'est pas grave, parce que pendant 10 ans, j'ai voyagé beaucoup. J'ai vécu des moments extraordinaires et je peux être fier, je peux être content de cette portion de vie, et voilà, je me sens plus apaisé, plus calme, et ouais, je suis rassasié par rapport à ce feu qui est la passion d'aller observer les animaux sauvages, et je peux être présent, en fait, physiquement et mentalement pour mon enfant, quoi.
D'accord. Bah écoute, c'est bravo d'avoir
merci.
Non, mais d'avoir été aussi aussi conscient de tout ça aussi, tu vois, de tes envies, et de pas t'être lancé dans ce projet comme ça.
Ouais, après c'est pas beaucoup de mérite, parce qu'en fait j'observe beaucoup les gens autour de moi et je vois peut-être ceux qui pour qui être devenu parent ou papa ça a bloqué un peu un sort d'élan dans la vie. Des enfants qui ont été voulus ou pas vraiment voulus, ou fait un peu, je trouve, précipitamment, et qui du coup voilà, ont marqué un peu, ça a été un peu un frein dans l'accomplissement et l'épanouissement personnel, et moi je voulais déjà m'accomplir et m'épanouir pour, voilà, me sentir prêt à être papa et me consacrer pleinement à mon enfant.
Ouais. Ok. Mais c'est pas parce que t'es capable d'observer les autres que t'es forcément capable aussi de t'observer toi-même, tu vois.
Ouais, bah après j'ai pris 10 ans pour y réfléchir et je voulais que le fait pour moi d'avoir un enfant, je voulais que ça soit voilà un tremplin et pas que ça soit un palier dans la vie quoi.
Ok.
Et donc voilà, j'ai eu un peu le luxe de choisir le moment où ça allait arriver.
Ouais, c'est cool. Comment se passe l'annonce de la grossesse? Comment tu apprends, toi, que tu vas devenir papa un jour?
Déjà, ça s'est passé assez vite, parce qu'avec ma compagne, on en a parlé, on a mis carte sur table, en fait, sur le moment où on voulait devenir parent. Voilà, c'est venu de ma compagne. Moi, voilà, j'avais gravi quasiment tous mes niveaux, donc j'ai dit « ok ». Et en fait, ça a marché tout de suite. On s'y attendait pas du tout. Et en fait, voilà, ma compagne m'annonce ça au petit déjeuner. Elle avait caché un petit mot dans un petit œuf qu'elle avait vidé. Et voilà, le matin arrive, elle me demande si je veux un œuf à la coque. J'adore ça. Et je lui dis ok. Et puis elle me file un œuf qui est vide, qui est léger, puis je capte rien. Je dis, mais c'est quoi cette fausse blague là? Et je casse l'œuf et il y a un petit mot dedans qui m'annonce que je vais être papa. Et là, pour moi, le temps il s'arrête quoi. Et je dis, waouh! Déjà, et en même temps, un petit compte à rebours qui se déclenche dans ma tête. Où je me dis, voilà, maintenant t'as 9 mois pour t'y préparer. Et en même temps, je reste sans voix, j'étais même un peu déçu de moi, ça m'a scotché. Et le temps de réaliser, de se remettre de ça, bon, c'était extraordinaire, hein, c'est un moment qui était fabuleux, mais moi ça m'a cloué sur ma chaise un peu. Mais voilà, c'était génial. Et après, un petit peu, une fois qu'on a réalisé, c'est extraordinaire, quoi.
Tu dis que t'étais déçu de toi parce que tu t'imaginais réagir autrement, c'est ça à l'annonce?
Ouais, plutôt exploser de joie, prendre ma compagne tout de suite dans mes bras. Et en fait, je venais de me lever, ça faisait 10 minutes que j'étais réveillé. Et je pensais pas qu'elle allait me l'annoncer comme ça, je pensais pas qu'elle allait me faire une surprise à ce point-là. Et donc voilà, j'ai mis vraiment du temps. En plus, c'était c'était un message un peu codé. C'était pas je suis enceinte ou une photo du. C'était papa ours attend son petit ourson, un truc comme ça. Donc j'ai le temps que je décode son message, le truc est monté et ouais, ça m'a complètement scotché quoi.
Ok. Disons qu'elle te facilite pas la vie quoi, tu vois.
ouais. Mais c'était génial.
Bien sûr, c'est cool. Très bien. Comment, pour revenir au sujet principal du podcast, comment vous décidez ensemble, elle décide, c'est son impulsion à elle à un moment donné de vous dire on va accoucher à domicile.
C'est venu assez vite. Elle s'est beaucoup renseignée sur ça, parce que je pense que quand une femme sait qu'elle est enceinte et que c'est parti, elle doit très vite penser à l'accouchement. Et en fait, c'est venu aussi d'un voyage qu'on a fait au Népal avec un ami qui habite là-bas et qui nous raconte une de ses premières discussions avec un Népalais. Et ce Népalais lui raconte que bah, lui, il est né dans la forêt, que sa mère était en train de guider les buffles dans la forêt et qu'elle a accouché toute seule au pied d'un arbre, ce qui est assez commun dans la campagne népalaise. Et que mon ami lui a dit bah moi je suis né à l'hôpital, et qu'il l'a regardé estomaqué en disant mais qu'est-ce qu'il y a, t'étais malade, tu allais pas bien. Et ça a été déjà, je pense, un premier déclic pour elle et puis pour moi, en se disant mais oui, pourquoi forcément aller dans une structure hyper médicalisée pour accoucher. Et puis après, on est tombé aussi dans une période avec beaucoup de, beaucoup d'articles sur Le Monde, des reportages sur Arte, sur les violences obstétricales, et qui nous a, ouais, qui nous a complètement scotché. On connaissait pas du tout cet univers des maternités. Et bon, moi, je suis un grand hypochondriaque. Okay. Et au final, j'avais plus peur, ouais, d'aller à la maternité que d'accoucher à la maison tranquille. Et puis voilà, on voulait pas être dépossédé de ce moment, qui est un moment qui doit être intime. On voulait vivre à deux de la manière la plus entre guillemets égalitaire possible, quoi. Moi, je voulais être actif. Bah, parce que à la maternité, voilà, le papa a un rôle très limité. Et je pensais, et à juste titre, qu'à la maison, j'allais être un peu plus actif et que j'allais pouvoir plus partager ce moment avec ma compagne. Donc voilà. Et puis après, dernier aussi, petite motivation. En fait, là, actuellement, on habite dans une maison de famille. On a la grand-mère de Julia, qui a 88 ans, qui habite au rez-de-chaussée et qui... Ah, il y a 50 ans, elle a mis au monde ses enfants ici, quoi, dans cette maison. Et nous, on s'était dit, ouais, ce serait chouette de renouer avec ça, quoi, que notre enfant naisse là où ses oncles, tantes, où le reste de la famille est né aussi, quoi. Donc ça, c'était le constat de départ, quoi. L'idée, l'envie. Après, voilà, il y a eu tout le parcours entre guillemets du combattant qui s'est mis en place.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Alors, avant de rentrer dans le parcours du combattant, il y a un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que tu as dit que tu étais toi-même hypochondriaque, alors ce que je peux très bien comprendre, mais et que tu dis que le fait d'aller dans une maternité ou dans un hôpital pour accoucher te fait limite plus peur que d'accoucher à la maison. Et alors, mon premier réflexe, moi, qui ai eu deux filles à l'hôpital, comme je pense beaucoup de gens aujourd'hui, la grande majorité des gens, c'est de me dire, en fait, j'avais, alors j'aime pas l'hosto, hein, vraiment, c'est pas un endroit que j'ai adoré, mais il y avait un truc rassurant aussi pour moi de me dire, si jamais il se passe le moindre truc, le moindre pépin, qu'il faut, bah, comme on a pu l'entendre dans ce podcast plusieurs fois, tu vois, qu'il faut aller tout de suite faire une césarienne en urgence parce que le bébé est en train de s'étouffer avec le cordon, je sais pas quoi, bah au moins il y a tout à domicile, quoi. Donc qu'est-ce qui fait, toi, que justement cet aspect hypochondriaque là a plutôt fait un rejet, tu vois, de l'hôpital que
moi j'avais surtout peur que ça, voilà, que ça se passe mal pour Julia, parce que pendant la grossesse, comme beaucoup de papas, j'ai eu du mal à visualiser concrètement que j'allais être papa. J'avais peur pour elle, en fait. J'avais peur qu'il se passe quelque chose de pas bien, qu'on ne nous demande pas notre avis pour tel ou tel acte médical, et que du coup, elle, son souvenir de l'accouchement soit terni, ou que, voilà, que ça soit un mauvais souvenir. Et puis après, voilà, la chance qu'on a, nous, c'est qu'on habite entre deux maternités. Une à 20 minutes, une à 10 minutes. Donc on savait qu'à ce niveau-là, s'il y avait un transfert, on était en 10 minutes, on était à la première maternité, quoi. Et avec une maternité, ouais, que tout le monde nous conseillait, qui nous disait que les équipes étaient géniales. Donc on se disait, bah voilà, si notre plan A fonctionne pas et qu'on est obligé d'aller à la maternité, on sera quand même en confiance pour le faire, voilà, dans un milieu plus classique, quoi.
Tu disais dans ton mail justement que c'était pas du tout un choix, enfin ce choix, vous aviez pas fait ce choix par rejet du corps médical ou de la médecine.
Non, tout à fait. En tant que bon et vrai hypochondriaque, j'adore la médecine et les progrès que ça a apporté. C'est juste qu'on voulait vraiment pas être dépossédé de notre maman. Julia voulait pas qu'on lui fasse des interventions sans lui demander. Voilà, pense concrètement épisiotomie, injection de cytocine. On voulait la, si on allait à la maternité, on voulait la salle nature, mais il y a une salle nature, donc en fait les chances de l'avoir sont assez minces, parce que si quelqu'un est déjà en train de, d'être en travail dans la salle nature, bah c'est mort quoi. Donc au final, si on allait à la maternité, on avait vraiment 80% de chances d'avoir un accouchement classique. Donc voilà, on voulait ce moment pour nous, ensemble, quelque chose aussi de plus naturel, de pouvoir marcher, manger et boire pendant, pendant le travail, accoucher dans la position que, qu'elle voulait. Mais tout ça dans un cadre hyper safe, parce que comme je t'ai dit, on est entre deux maternités, donc c'est, voilà, c'est, on avait le luxe de pouvoir choisir.
Ok. Tu me disais aussi que c'était un choix de parcours qui était un peu long, difficile, et qui doit malheureusement, comme tu disais, se monter dans la clandestinité, entre guillemets, par rapport
ouais,
au professionnel de santé.
Ouais, ça c'est hyper... c'est hyper bizarre, en fait. C'est que nous, on voulait monter un projet qui soit le plus en sécurité possible, mm-hmm. le plus cadré. Là, juste la seule spécificité, c'est qu'on voulait que l'accouchement soit à la maison. Et donc, on a commencé à ma compagne, à, voilà, au rendez-vous gynécologique, sage-femme, et puis aptonomie, et puis le médecin traitant. À chaque fois, on a sondé, quoi. Elle a jeté une phrase sur l'accouchement à domicile. Et on a vu que, voilà, à part notre sage-femme qui faisait le, donc le suivi de grossesse, qui était hyper ouvert... à la question, mais qui voulait pas nous accoucher à domicile. Au moins, elle nous jugeait pas dans ouais. D'un mauvais regard, quoi. Elle nous regardait pas comme des excentriques et puis des gens qui allaient prendre des risques pour leur enfant. Mais les autres, si. Donc là, il faut, on envoyait un petit peu la phrase test, on voyait comment ça réagissait. Et puis, comme ça réagissait pas très bien, bah après, on n'en parlait plus, quoi. Ouais. Et on faisait. Et après, c'était un peu un jeu de dupe, parce que voilà, on disait que oui, on allait aller à la maternité, il n'y a pas de souci. Et on ne parlait pas de notre projet. Et ça, c'est grave, parce que c'est comme ça qu'on peut se mettre dans des situations pas dangereuses, parce que je ne pense pas que l'accouchement à domicile, ça soit quelque chose de dangereux, mais où on peut louper des détails et enlever de la sécurité, quoi. Donc on a eu une grande chance d'avoir notre sage-femme qui faisait le suivi de grossesse, qui était extraordinaire. Qui répondait à nos questions, on s'étalait pas sur le sujet, mais voilà, qui nous a pas jugé et porté un mauvais regard sur nous et qui nous a accompagnés comme il fallait, quoi. Et avez... voilà, ça c'est le côté corps médical, puis après il y a le côté famille, quoi. C'est que voilà, là nous en fait on a rien dit quasiment. Il y a un ami de mon côté et une amie du côté de ma compagne qui était au courant de notre choix, mais sinon la famille, c'était, voilà, on voulait pas quitter. On sait que c'est quand même pas bien vu, parce que les gens ils disent mais pourquoi coucher à la maison alors qu'il y a tout le confort moderne à la maternité, quoi. Et la plupart des gens et du corps médical pensent que c'est une pratique du Moyen-Âge, alors que c'est tout le contraire, quoi. C'est hyper hyper technique. On a mis tous les garde-fous en place avant le jour J. C'est un boulot de dingue. On s'y prépare mentalement, on doit toujours s'y préparer. Parce que voilà, aller à la maternité, il y a aussi ce confort mental de dire je monte dans la voiture, j'arrive et on s'occupe de nous, quoi. Là, il fallait qu'on se prépare à tout. Mais voilà, ça c'est plus dur, j'ai envie de dire, c'est de ne pas pouvoir en parler librement et de pouvoir un peu... décharger ses peurs, entre guillemets, parce que même si on décide de faire ce choix là nous c'était notre premier enfant, et voilà, c'était compliqué pour ça.
En fait, vous vouliez décharger vos peurs auprès de vos amis, j'imagine, de votre famille, de vos proches,
ouais.
Mais sans doute eux ils vous en rajoutaient une couche de leur propre peur, c'est ça?
Probablement. Et après je sais pas pourquoi, mais un jour j'ai eu un confrère au téléphone et je sais pas pourquoi j'ai senti que je pouvais lui en parler. J'ai eu une intuition Et je lui dis, tu sais, nous, on aimerait bien accoucher à la maison. Et là, il me dit, ah, c'est cool, nous, on l'a fait. Et là, je me suis dit, mais purée, je le connais depuis des années. Ma compagne a travaillé de longs mois avec elle. Et il nous dit ça, quoi. Et je dis, ouais, mais c'est génial, je savais pas. Et il me dit, bah, si tu veux, voilà, si tu veux, on peut se voir un soir et puis en parler. Et voilà, on a organisé un dîner avec ses amis, puis ils nous ont raconté leur accouchement à domicile. Donc voilà, même après, généralement les parents se vantent pas de ça. Mais ça a été un soutien incroyable parce que du coup on s'est dit ouais, c'est possible, des gens autour de nous l'ont fait et on a pu avoir les clés de ce qu'il fallait faire pour mener à bien notre projet. Sinon on était un peu largués, quoi.
Vous êtes un peu comme une confrérie secrète, sauf que vous savez pas entre vous, vous faites partie de la confrérie, quoi.
Exactement.
Alors que ça a l'air d'être quand même, ça a l'air d'être assez compliqué, assez technique. Peut-être tu vas nous en parler et que vous avez sans doute plein de trucs à partager de ce fait-là, quoi.
Ouais.
Ouais. Tu penses que c'est dû au tabou, ce.
Je pense que c'est lié au fait que ben on n'a pas envie aussi d'être embêté avec ça, parce que là généralement la première réaction pour la majorité des gens c'est plutôt négatif, c'est mais c'est pourquoi ils ont fait ça, ils sont fous. Et puis après voilà, faut justifier pendant de longues minutes pour dire que non, on n'a pas voulu prendre de risques pour notre enfant et qu'on a fait ça bien. Donc on préfère pas s'étaler là-dessus.
Ok. Les gens sont pas curieux. Ils pensent d'abord à vous juger plutôt qu'à vous poser des questions, c'est ça?
Ouais, parce que c'est vraiment quand on dit on a accouché à la maison, on l'entend direct dans le son de la voix, dans les mimiques du visage. On voit tout de suite si c'est un étonnement genre ouais c'est génial ou non mais c'est des malades, quoi. Donc voilà, et là ça a été un peu on a galéré pendant toute la première phase, on va dire, et là ce dîner là ça a été une étape en se disant ouais c'est possible, on peut le faire et on n'est pas cinglé, parce que voilà, des amis assez proches l'ont fait, quoi.
Et ça se passait avant le début de la grossesse, c'est ça? Vous étiez déjà en train de travailler ce projet là
Je pense que ma compagne, oui, et elle a pas voulu me le dire pour pas me faire peur, parce que quand moi elle m'a dit ça, je m'étais pas du tout posé la question, quoi. Donc tu vois, quand moi elle m'a dit ce serait bien qu'on essaie d'accoucher à la maison, moi j'ai la première réaction, ouais, j'ai flippé, quoi. Parce que bon hypochondriaque, je me dis mais il peut arriver ça. Donc ça m'a un peu tourné la tête, et puis après elle me dit non mais voilà, renseigne-toi. En fait, il n'y a pas vraiment de documentation officielle sur l'accouchement à domicile. Enfin, il y en a très peu, sinon des documents statistiques. Mais voilà, il y a les réseaux sociaux. On a la chance d'être entré via les réseaux sociaux sur un groupe de mamans qui ont accouché à domicile. C'est pas un groupe de sages-femmes ou quoi, okay, c'est que des mamans qui partagent leur expérience. Et ça, voilà, ça a permis de faire le chemin. De trouver la sage-femme, de lire aussi les expériences. Ma compagne m'envoyait en lecture les récits d'accouchement à la maison, puis j'ai commencé à me dire mais ouais, c'est génial, quoi. Et donc voilà, on est parti là-dessus. Et puis après, le plus dur c'est de trouver une sage-femme qui veuille faire l'accouchement à domicile, quoi.
Parce que donc vous aviez une sage-femme qui vous suivait sur le suivi de la grossesse, on va dire.
Ouais.
Mais vous n'aviez pas trouvé, ou vous aviez trouvé une autre sage-femme, c'est ça, pour vous aider à accoucher le jour J?
Ouais, exactement.
Excuse-moi, mais j'étais en train de te visualiser, en train de faire ce travail-là, si tu veux, et je me disais, ça doit être chaud quand même.
ce qui est chaud, c'est que déjà, quand tu regardes dans ta région et qu'il n'y a pas de sage-femme qui pratique l'accouchement à domicile, ou que les deux sages-femmes qu'on nous avait données en contact, qui n'étaient pas trop loin de chez nous, nous ont répondu que non, elles ne le faisaient plus, que voilà, elles ne voulaient pas être radiées par l'ordre des sages-femmes, donc elles pratiquaient plus
Parce que c'est interdit à ce point-là? Je ne savais
Alors,
pas.
C'est pas interdit, c'est juste que les sages-femmes doivent avoir une assurance un contrat d'assurance qui spécifie noir sur blanc qu'elles sont en mesure de, enfin qu'elles sont couvertes pour l'accouchement à domicile. Et ces assurances coûtent très très cher, dans les 30 000 euros. Et pour une sage-femme libérale, c'est juste impossible, quoi.
Ok.
Donc c'est la plupart pratiquent cela sans assurance, et c'est ce qui est répréhensible par l'ordre des sages-femmes.
Ok.
Donc voilà. Donc on constate qu'il n'y a pas de sage-femme qui est présente sur notre territoire. Donc là, il a fallu commencer à chercher dans une autre région. Et on a eu contact via les réseaux sociaux d'une sage-femme qui était en cours de mise à pied, donc qui était suspendue de sa profession, qu'on a quand même contacté et qui nous a dit que elle était suspendue pour 6 mois, mais que du coup pour la date d'arrivée de notre bébé, c'était bon et qu'il fallait aller la rencontrer.
Elle s'était fait suspendre à cause de sa pratique, c'est ça, à domicile ?
Oh ouais, elle a dû faire un transfert, en fait, à la maternité, qui s'est très bien passé, hein, il n'y a pas eu de souci. Mais la maternité a vu d'un mauvais œil cette pratique-là et a saisi l'ordre des sages-femmes contre elle. Okay. Et elle a été suspendue plusieurs mois pour ça, quoi.
Et tu t'es un peu renseigné sur pourquoi l'ordre des sages-femmes refuse de faire des accouchements à domicile, au-delà de l'aspect des assurances, quoi.
Parce qu'ils considèrent ça comme dangereux, d'un autre âge. Et je pense que si, dans le fond, hein, derrière tout ça, il doit y avoir une raison financière, c'est que les maternités sont aussi rétribuées au nombre d'accouchements. Que leur service dépend aussi de ça, hein. C'est une machine qui doit tourner, et que si les accouchements à domicile se développent en France comme ils sont développés en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, il y aurait une perte nette pour les hôpitaux, ouais. Et ça se comprend.
Alors toi qui aimes les stats, j'imagine que t'as fait un peu, mais effectivement c'est quoi l'ordre d'idée de pour avoir un ordre d'idée des pourcentages d'accouchements à domicile qu'il y a dans les pays que tu viens de citer, là, par rapport à la France.
En France, c'est 0,25% des accouchements. Sur les 800 000, en moyenne en France, on oscille entre 1 000 et 2 000 maxi par an. Et dans les autres pays, donc le pays de référence, c'est les Pays-Bas, ils sont à plus de 30% d'accouchements à domicile.
Okay.
Donc là-bas, c'est une pratique qui est acceptée, où les sages-femmes sont assurées, où les parents sont guidés tout au long de leur parcours, et voilà, et c'est rentré dans les mœurs.
Et c'est pas aussi une question de couverture sociale ? Désolé, hein, j'ai pas taffé la sécu des Pays-Bas, si tu veux, mais...
Je sais pas du tout, okay. Mais bon... Après, voilà, chez nous, je pense qu'on a une couverture sociale qui est quand même assez forte.
Mm-hmm.
Et donc, je pense pas que ça soit un frein, en tout cas, un frein à ça.
Non, 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 mais j'étais en train de réfléchir, tu vois, de me dire peut-être que ça coûte moins cher, entre guillemets, d'accoucher à la maison que d'accoucher à l'hôpital. Ce qui m'avait scié, moi, c'est que, tu sais, j'étais sorti de mon premier accouchement, enfin, du premier accouchement de ma femme, et j'étais passé à l'accueil, en fait, en disant combien je vous dois. C'était marré. En fait, t'inquiète, c'est l'État qui paye. J'étais là, putain, on est vraiment dans un chouette pays, c'est cool. En tout cas, sur cet aspect-là, c'est plutôt très chouette. Non, mais je sais pas, tu vois,
Mais peut-être, hein, c'est sûrement ça, oui, quand on voit tout le personnel que ça mobilise en maternité, les interventions et tout ça, ouais, je pense que, effectivement, ça coûterait beaucoup moins cher à la sécurité sociale s'il y avait plus d'accouchements à domicile, ouais.
Ok. Pardon, pour revenir à votre expérience, tu disais aussi que vous aviez fait une prépa sophro et d'aptonomie aussi, c'est ça?
Donc Julia, déjà de base, elle voulait aussi vivre son accouchement sans péridurale. Alors sans être totalement fermée à la question, mais voilà, qu'on soit à la maison ou à la maternité, elle voulait essayer de s'en passer. Donc la prépa sophro est venue assez naturellement, puisque en fait c'est des séances de méditation où la sage-femme, avec un vocabulaire assez particulier, décrit en fait les contractions sans les nommer. Elle appelle ça des vagues ou des bousculades. Et on entraîne l'esprit à se contrôler, accepter et laisser passer ces vagues, quoi. Donc Julia a été très réceptive à ça. Après, voilà, ça c'était la théorie. En pratique, quand on va parler du D-Day, je vais t'expliquer que ça n'a pas du tout marché. mais au moins ça l'apaisait. Et puis ça lui a servi pendant sa grossesse, parce qu'en fait elle a eu des contractions très rapidement, au bout de 3 mois. Donc elle a pu s'entraîner à la sophro tout au long de sa grossesse, quoi. Et ça permettait d'avoir voilà, un élément en plus, une clé en plus pour bien vivre l'accouchement et les phases de contraction.
Tu la faisais aussi, toi, la préparation à sophro ?
Alors moi, j'y allais pour essayer d'apprendre le vocabulaire, voir un peu aussi dans quelle ambiance elle mettait Julia pour faire ses séances. Après, j'avoue que ça faisait aussi effet sur moi, donc à la fin, j'étais à moitié endormi. C'était toujours en fin de journée, donc j'étais pas ultra ultra attentif, mais c'était bien de voir, ouais, comment on prépare l'esprit à supporter ces vagues de douleur. Ouais.
Je pense qu'environ 100% des parents, des darons qui sont venus dans ce podcast, qui me parlent qu'ils ont fait la prépa sophro, ils finissent endormis.
Bah oui, parce que nous on n'est pas acteurs, on se concentre pas forcément sur notre respiration et notre esprit il part, quoi.
Ouais, exactement. Bref. Et aussi autonomie, alors, c'est ça?
Ouais, et ça c'était extraordinaire pour moi, parce que au début de la grossesse je vivais un peu le truc je sais que c'est en cours, mais la vie peut se dérouler de manière normale, ce qui n'était pas forcément l'attente de ma compagne. Ma compagne aurait voulu que dès le début on soit dans ce qu'elle appelle un cocon, tous les deux dans notre bulle pendant ces longs mois, et moi en fait il me restait un rêve à accomplir, donc j'étais aussi focus sur cet objectif là et puis ouais, un peu de peur, un peu de lâcheté, de me dire mais purée, qu'est-ce que je vais faire, quoi, comment je vais m'en sortir. Et du coup, l'autonomie, ça a permis de calmer ces peurs-là et de me rendre compte que le bébé, c'était pas dans le ventre, c'était pas quelque chose d'inerte, et c'était pas simplement un développement de cellules, mais qu'il y avait aussi des réactions au toucher. Donc en fait, l'autonomie, c'est ça, c'était apprendre à développer le toucher, ce qui est c'est très particulier, parce qu'en fait, de base, quand tu touches, c'est pour recevoir une information, la texture, la chaleur, la température de ce que tu touches, la nature aussi. Et là, c'était le contraire, c'était apprendre à donner avec le toucher pour rentrer en contact avec le bébé. Et la première séance, moi, je me suis dit, mais c'est un truc de sorcière, quoi. Elle me dit, mon bébé, il arrive. J'avais les mains sur le ventre de ma compagne. Ma compagne avait ses mains sur mes mains. Et le médecin avait ses mains par-dessus nos mains. Et elle sentait le bébé avant qu'on le sente. Elle nous disait, il va arriver à gauche. 2 secondes après, je la sentais à gauche. Enfin, c'était, pour moi, la première séance, c'était du spiritisme presque, quoi. En s'entraînant à la maison, je me rendais compte que ouais, j'arrivais à faire volontairement bouger le bébé dans le ventre. Et puis la sensation, elle est incroyable, parce que c'est pas comme des coups qui arrivent sur le ventre, c'est des vagues, c'est des ondulations. C'est une petite vague qui vient au creux de la main, toute douce. Et le fait de pouvoir lui dire viens par ici, viens par là, et qu'elle réagisse à ma voix, là je me suis dit, ah ouais, là tu peux plus te défiler, quoi. Ça y est, t'es dedans, c'est concret, et ça permettait aussi de faire des choses incroyables. Par exemple, un soir, le bébé était calé entre les côtes et le bassin de Julia. Ça la gênait, ça lui appuyait fortement, et je suis venu avec ma main et je l'ai appelé. J'ai appelé le bébé de l'autre côté, et le bébé est venu et ça l'a soulagé. Donc c'était aussi une première façon d'être acteur dans la grossesse, mais pas un acteur extérieur qui influence sur l'environnement de la maman, mais plutôt acteur sur ce qui se passe dans son ventre, quoi.
Ah, c'est cool.
Ouais. Mais c'est assez, enfin, ouais, c'est assez dingue quand on voit les médecins qui vous disent votre bébé va arriver et vous le sentez tout de suite après. C'est presque de la magie au début, mais après on comprend que c'est juste développer un sens du toucher et mettre une intention sur le toucher. Et en fait, ça sert même quand le bébé il est là, quoi. Quand je veux calmer la petite, j'appose ce toucher qui est particulier et je lui donne et je l'incite à se calmer, à la rassurer. Et le pire, c'est que ça fonctionne, quoi.
Ah bah, on est des animaux, hein. Mais...
ouais, tout à fait. C'est exactement ça.
C'est là qu'on se rend compte avec les petits bébés en général.
Ouais.
Je voulais revenir juste sur un truc que tu disais au tout départ, enfin au début où tu as commencé à parler de l'autonomie, c'est que tu disais que tu avais un peu peur de devenir papa et que peut-être tu avais la sensation que tu n'allais pas t'en sortir. Ça se concrétisait comment pour toi?
Peut-être un déni, peut-être que je ne m'occupais pas assez de Julia, que je n'engageais pas assez de conversations. Là-dessus, que je m'occupais pas de l'avancée, enfin, je m'occupais pas très concrètement de l'avancée de l'accouchement à domicile. Quand t'as passé toute ta vie à être libre, à pas avoir de responsabilité plus que ça, de se dire, bah voilà, dans quelques mois, j'aurai un être humain complètement dépendant pour sa survie de moi. Que moi je vais avoir une influence sur son développement, sur sa vie. Ouais, ça fait peur, quoi, parce qu'on a peur de se louper. Voilà, l'apto, ça m'a permis de calmer aussi ça et que ça devienne plus concret. Voir que je pouvais agir positivement sur elle, ça me disait que voilà, j'étais capable de m'occuper d'elle. Mais ça a duré. Ça a duré assez longtemps cette phase, jusqu'à ce que, en fait, que je coche mon dernier niveau. Et après, je me suis dit, j'ai plus rien d'autre à penser que ça. Et voilà, mais j'avoue que les premiers mois, j'ai pas été hyper. Enfin, je trouve que j'ai pas été hyper exemplaire, quoi.
Ben, y a pas de. Enfin, je pense pas qu'il y ait d'exemplarité qui compte, hein, tu vois, enfin, qui vaille la peine, quoi.
Non, mais j'aurais voulu être plus présent, peut-être plus concret. Après, voilà, j'ai...
Mais t'étais en train de finir tes niveaux.
Ouais, voilà. Il fallait que je finisse ça. Dans ma tête, il fallait que je finisse ça. Et puis, une fois que ça a été fini, qu'on a rencontré la sage-femme qui allait nous accoucher, ça s'est déroulé tout seul, quoi.
Et bien d'accord. C'est vrai que vas-y.
Ouais, j'ai eu du mal à franchir cette phase du... ouais, est-ce que à tout moment je pourrais pas me sauver de ce truc là et voilà, mais c'est venu petit à petit. Je pense que pour un premier enfant, qui plus est, moi j'ai jamais été vraiment en contact avec des bébés, j'ai dû porter deux fois un bébé dans mes bras, voilà, ça me faisait peur, me sentir que je me suis dit je vais être incapable de rien faire quand elle sera là, quoi. Mais non, tout ça, toute cette phase là, elle s'est calmée d'elle-même avec justement ces rendez-vous sophro réguliers, l'autonomie, qui me remettait en fait vraiment en face de ce truc-là, qui me ramenait un peu sur terre, et c'est venu petit à petit et assez naturellement, quoi.
Tu penses que tu n'aurais pas été si serein si tu n'avais pas fait, si tu avais l'autonomie notamment?
Ouais, parce que ça aurait jamais pris un caractère aussi concret. Le fait que vraiment ton bébé il puisse réagir à ta voix, à tes commandes. Tu te dis, ouais, il est vivant, quoi. Et c'est déjà un être qui a des réflexes plus ou moins conscients, en fait, parce qu'elle réagissait vraiment à ma voix, à mon toucher, à moi. Et donc là, on se dit, voilà, c'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose qui réagit. Et donc, en fait, je suis déjà papa. Le médecin qui nous faisait l'autonomie, elle disait toujours qu'on était déjà trois, en fait, on était déjà parents. Et ça, c'est une claque, en fait, de se dire, bah non, en fait, j'ai pas 9 mois avant d'être papa, je suis déjà papa, et j'ai déjà une influence qui peut être positive ou négative sur elle, quoi. Donc ça remet quand même pas mal les choses en place.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, c'est cool. Comment s'est passée la suite de la grossesse?
Comme je t'ai dit, globalement bien, mais Julia a eu des contractions au bout de 3 mois. Donc là, les médecins ont mis le holà. Elle a été assignée à résidence assez vite, quoi. Au bout de 3 mois et demi, 4 mois à peine.
Ah, c'est pour ça qu'elle est peut-être gardée dans le cocon, sinon, peut-être.
Aussi, ouais.
Ok.
Mais notre cocon, on l'a eu avec le confinement.
Ah, bah là, vous y avez eu droit.
Voilà. Comme et quoi. C'était une des meilleures choses qui puisse m'arriver pour me préparer de papa dans les dernières semaines. Mais ouais, c'était. Du coup, bah, ça a un peu aussi compliqué les choses pour la recherche de la sage-femme, parce qu'il y a un moment, on a trouvé une sage-femme donc, dans une autre région. Et il a fallu y aller, quoi. Donc ça, c'était pareil, une journée un peu particulière, parce qu'elle avait des contractions. Il a fallu partir dans une des plus grandes villes de France, et puis se débrouiller dans cette grande ville et pas pouvoir trop marcher.
Et puis avec, j'imagine, la maladie et tout. C'était pas pour ça. Pardon, c'était pas pendant le confinement.
Non, c'était pas pendant le confinement. Pardon. Là, c'était en février.
Annule ma remarque. Ouais.
Non, mais c'était déjà une difficulté à l'accomplissement de notre projet, parce qu'il fallait absolument qu'on aille voir cette sage-femme. On a bien fait de pas attendre, parce que le confinement est arrivé à peine un mois après. Mais voilà, après, globalement, à part ça, à part ces contractions qui sont venues un peu perturber la grossesse et qui ont perturbé l'accouchement, ça a été globalement bien, quoi.
Ok. Ouais, Julia, de son côté, elle vivait bien le fait justement d'être assignée à résidence avant même le confinement.
Non, au début non, parce que quand on vous dit du jour au lendemain vous n'allez pas retourner au travail, ça fait bizarre. Donc elle a eu cette première phase où elle a dû digérer tout ça. Moi, je suis parti cocher mon niveau entre temps. Donc, je suis parti en voyage. Et puis après, elle s'y est fait. Et après, elle était à l'aise là-dedans. Et ça a été bien parce que ça nous a permis aussi de consolider notre projet d'accouchement à domicile, de se rassurer, de tout préparer. Et voilà, et ça a été bien. Et après, le confinement est venu par-dessus. Et c'était une des meilleures choses qui puissent nous arriver parce que. Moi, ça m'a pareil, ça m'a assigné à résidence. Donc, j'ai arrêté de partir à droite à gauche pour le boulot qui est assez prenant. J'ai des horaires qui sont jamais pareils, tout le temps décalés. Et là, du jour au lendemain, on m'a dit tu restes à la maison. Et là, on a pu faire notre bulle, quoi.
Excusez-moi, mais tu partais loin en général et longtemps?
Il y a quelques années, ouais, j'ai passé 5 étés en Arctique. Donc ça c'était long, sans communication. Après pas très loin, mais là le dernier niveau c'était pour le lynx. Je suis allé au sud de l'Espagne, mais c'est toujours des conditions assez particulières, quoi. On n'est jamais sûr de capter. Puis moi je suis pris à fond là-dedans, donc je communique pas trop. Mais voilà, ça fait en tout cas une coupure physique qui est pas anodine pendant une grossesse, quoi.
Ok. Bon, donc tu disais que le confinement t'a aidé toi de ton côté à justement réintégrer la bulle.
Ouais, exactement. Et ça, c'était une bonne chose parce que j'aurais peut-être pu louper la dernière phase qui était la plus importante, quoi. Parce que Julia avait des contractions de quand même de plus en plus régulières et répétées, et le fait d'être là, de pouvoir m'occuper d'elle les dernières semaines, ça a été bien. Et puis moi, ça a permis de me faire focus, en fait, de me dire là maintenant le projet il est ficelé, et t'as plus le choix, faut que tu t'y prépares concrètement. Et en fait, dans les dernières semaines, au lieu que la pression monte, la pression a petit à petit disparu, parce qu'on se documentait quasiment tous les jours. Il y a des super documentaires sur le net sur l'accouchement à domicile. Donc tout ça, moi, ça a permis de démystifier l'instant. J'aime pas les surprises, donc comme ça, je voyais aussi un peu toutes les phases qui allaient se dérouler, à lire des bouquins sur vraiment l'accouchement au naturel en tant que tel. Toutes les phases que Julia allait traverser, ça a permis de moi de les apprendre, de les intégrer et de me sentir vraiment, vraiment prêt, quoi. Et pas avoir la pression de dire oh, ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Non, je savais à l'avance, dans les grandes lignes, toutes les phases qui allaient se dérouler. Et ça, c'était bien, quoi.
Ok. Bon, est-ce que tu nous parles du fameux jour J?
Le D-Day. Ouais, donc très particulier. Très, très particulier. Parce qu'on s'y attendait. Enfin, s'y attendait pas du tout. Elle a accouché à 8 mois, pile poil. Et en fait, 2-3 jours avant, on avait notre rendez-vous gynéco du 8e mois, auquel j'ai pas pu aller parce que tous les derniers rendez-vous médicaux, bah, avec le coronavirus, moi j'ai été exclu de ça. Donc ça, c'était dur aussi. Et la gynéco dit à Julia, tu as le col effacé et tu es dilaté à plus de 2 cm. Et là, elle lui dit en rigolant, non mais je vais pas accoucher tout de suite. Et la sage-femme lui dit, la gynéco lui dit, je peux pas me prononcer. Donc là, premier coup de presse, on s'aperçoit que pour l'accouchement à domicile, il nous manque une analyse en labo, l'analyse du streptocoque B, qui est une bactérie qui se transmet de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement. Et à la maternité, on a des perfusions d'antibiotiques, mais à l'accouchement à domicile, ouais, faut prendre des antibiotiques longtemps à l'avance si on est positif. Et sans ce dernier test, les sages-femmes se déplacent pas. Donc ça, c'était le vendredi. Et du coup, le vendredi après-midi, j'ai dit, faut qu'on aille faire ce test. Je sais pas pourquoi, mais faut qu'on aille le faire, parce que si on attend lundi, on peut passer à côté, quoi. Et donc, on fait le test. Et au moment du test, ils nous disent, il faut 48 heures de mise en culture pour avoir le résultat. Donc là, on se dit, oh purée, faut pas que ça arrive ce week-end. Et en même temps, pour nous, on s'est dit, mais non, mais ça va pas arriver ce week-end. On fait rien de la journée. Elle va pas arriver. Et on reçoit le résultat du test de streptocoque le lundi après-midi. Et lundi à 19h, ça, on identifie comme étant des contractions de travail, mais sans trop y croire. Et là, je sais pas si je raconte ça parce qu'on va me prendre pour un fou, mais il y a eu un... Je suis très terre à terre, mais il y a eu un enchaînement de coïncidences qui nous a dit que ça allait arriver. C'était un truc de fou. Il faisait beau depuis un mois et demi. Un orage est arrivé. Et là, je me suis dit, ouais, ce serait... J'aimerais bien qu'elle arrive un soir d'orage. Voilà, j'ouvre la fenêtre pour profiter de l'orage. Et là, me vient en souvenir le souvenir de mon arrière-grand-mère. Et je sais pas pourquoi, je l'ai très peu connue, je pense très peu à elle. Et c'est un souvenir qui se tient dans mon cerveau. Et je suis en train de me dire, et si c'est pas un signe qui me dit que ça va arriver. Donc bref, deux trucs. Notre fille s'appelle Athénaïs en référence à la déesse grecque. Et pile, on voit une pub à la télé sur ce soir, on diffuse le film Le 3. Donc là, avec ma compagne, on explose de rire. On se dit, non, mais ce serait grave que ça soit une coïncidence comme ça. Et pareil, je me mets à ranger des trucs que je range jamais. Enfin, je me mets un peu dans un état. Le chat commence à être hyper nerveux. Et je me dis, mais non, mais tu délires, tu fixes sur des trucs, rien du tout. Et Julia, pareil, on avait un code avec Julia. C'est quand elle avait, comme elle avait tout le temps des contractions et que je flippais un peu de me dire, putain, ça y est, c'est les contractions de travail. Quand elle avait des contractions, qu'elle se crispait et que je la regardais, elle me souriait. Et elle, souvent, elle me disait, non, mais je vais pas coucher tout de suite. Et là, je la regarde et elle me sourit pas. Et là, je me dis, oh, c'est pas comme d'habitude. Et on appelle, du coup, elle décide d'appeler la sage-femme pour l'accouchement à domicile. Donc, à 23h. Et notre sage-femme nous dit, non, mais là, c'est pas possible, je suis déjà en accouchement vers quelqu'un d'autre. Faut pas que t'accouches maintenant, je pourrais pas venir. Donc, on se dit, ok, on va se coucher. Moi, pareil, avec une petite intuition, je dis, je vais préparer quand même les sacs pour la maternité. On sait jamais. Donc, voilà, on me fait faire les sacs à minuit. On se couche. Et là, je me réveille en pleine nuit avec mon téléphone qui sonne et c'est Julia. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire? Elle est plus dans le lit à côté de moi. Et elle me dit, je suis dans la baignoire, j'arrive plus à gérer, faut que tu viennes. Et en fait, elle m'a laissé dormir 3 heures pour que je puisse être prêt, quoi. Okay. Donc là, je vais dans la salle de bain, elle est dans la baignoire et là, ouais, je vois que c'est pas. Enfin, que c'est là, quoi, que ça va être là. Puis en même temps, il y a toujours ce truc en moi qui me dit, mais non, mais c'est trop tôt, ça va se calmer. C'était déjà arrivé qu'en fait, qu'il y a des contractions qui se calment dans la nuit. Et là, je vois qu'il commence à fermer les yeux, à plus vraiment gérer la douleur des contractions. Donc là, bah voilà, à 4h du matin, me voilà en train de faire le ménage dans le salon, de préparer toute la zone d'accouchement. Et en fait, ça, c'était la phase la plus compliquée pour moi et pour nous. C'est-à-dire que là, la pression, elle est venue. Et là, j'ai eu des moments un peu, pas de panique, mais de grande angoisse qui arrivaient, en me disant, ça y est, vous êtes tous les deux, vous êtes dans le truc, c'est pour aujourd'hui, faut être prêt. Et donc là, voilà, j'essayais de m'occuper comme je pouvais pour occuper mon esprit. Et pas me laisser prendre par l'angoisse. Et là, on décide de faire appel à notre sage-femme qui nous faisait le suivi sophro, en lui disant, est-ce que vous pouvez passer à la maison pour juste voir à combien on en est. Parce que ça, en fait, qui est dur dans ces moments-là, c'est qu'on ne sait pas si le travail avance, si le travail est bloqué, si ça se passe bien, si ça se passe mal. Julia est dans sa bulle, elle me répond pas forcément, voire même pas du tout, à mes questions. Donc là, super sympa, notre sage-femme arrive à l'aube et nous dit elle est à dilatation complète et ça avance, quoi. Donc là, voilà, on était dedans. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est quoi là? C'est que du coup, dès que la sage-femme était là, on s'est senti vraiment en sécurité, plus tout seul. Moi, mes angoisses partent. Je deviens réellement acteur parce que la sage-femme me guide aussi, me dit mets la serviette chaude là. Julie avait souvent soif, donc je faisais des allers-retours. Mais souvent, j'étais repris par l'événement. Et du coup, je pouvais aller dans la cuisine, aller boire, aller manger, aller me calmer, reprendre mes esprits. Et je voulais pas perdre mes moyens dans ces moments-là. Et c'est là où je me suis dit, mais mon vieux, tu serais à la maternité, tu serais étalé par terre, tu serais dans les pommes, parce que je pense de recevoir l'émotion de la maman qui est en train de travailler, qui est en train de souffrir. Je pense que moi, si j'avais été assis sur une chaise dans le coin de la salle de travail, j'aurais fait la carpe, quoi. Je me serais évanoui, c'est sûr et certain. Et là, le fait d'être acteur, c'est mon cerveau était bridé sur il faut que tu sois là pour elle, il faut que tu fasses ci, ça. Et donc, j'étais tout le temps en action.
Super intéressant.
À faire quelque chose, quoi.
Parce que je fais partie de ces pères qui ont vraiment failli tomber dans les vapes. Je me suis fait sortir, tu vois. Et en fait, de la façon dont tu me le racontes, je me dis que sans doute j'aurais pas géré. ça aurait sans doute été pire pour moi, en fait, tu vois, d'avoir été dans l'action et de me retrouver seul à seul avec ma femme qui était en train d'accoucher, etc., quoi, tu vois. Donc c'est intéressant ce que tu me dis, quoi.
Ouais, bah après c'est l'avantage de la préparation, c'est comme on s'était préparé à mort, que moi je connaissais les phases de déroulement de l'accouchement, j'avais pas à m'occuper de qu'est-ce qui allait se passer, Ma seule préoccupation, c'était est-ce que ça continue et que ça avance bien. Et après, voilà, c'était m'occuper d'elle, lui mettre une bouillotte sur les reins, la tenir, l'encourager. Et le fait de faire ça, ça te met focus. Et tu te dis, je peux pas dérailler, en fait. Si je déraille, la sage-femme va pas s'occuper de moi. Elle a Julia. Je vais être un boulet, quoi. Et je voulais pas aussi gâcher le moment comme ça, quoi. En me rendant inutile et même en gênant le déroulement de l'accouchement, quoi. Et du coup, j'étais dans une phase de concentration qui était assez extrême et intéressante. Voilà.
J'ai une question à laquelle tu vas sans doute répondre dans deux secondes, mais donc là, c'est votre sage-femme qui vous a suivi pour le suivi de la grossesse. Mais si j'ai bien compris, votre fameuse sage-femme qui est censée venir vous faire accoucher à domicile, elle vit dans une autre région.
Elle vit dans une autre région et elle est déjà en train de faire un accouchement. Et du coup, à 5h du matin, on la rappelle et elle nous dit « J'ai fini l'accouchement, je retourne chez moi dormir une heure, me changer parce que c'est le troisième accouchement que j'enchaîne en quelques jours. » Et là, on se dit « Ok. » Donc, elle était à 100 km au nord de chez nous en train de faire un accouchement. Elle est descendue à 150 km au sud pour revenir. Et là, la sage-femme qui était présente, elle me dit d'un ton très calme, je vais quand même aller chercher ma trousse d'accouchement, on sait jamais. Et cette sage-femme-là aussi commence à monter un peu en pression. On voyait qu'elle vivait le truc à fond, qu'elle était sous tension. Elle était vachement actrice à repositionner Julia, à la toucher. Et donc, on attend et finalement la sage-femme qui est là pour l'accouchement à domicile arrive. Et elle, c'est complètement l'inverse de la première sage-femme, c'est qu'elle nous laisse vraiment tous les deux, qu'elle part des fois dans la cuisine faire je sais pas quoi, elle revient et elle s'assure juste que tout se passe bien. Et dans cette dernière phase, tout se passe pas bien parce que le travail s'arrête. Julia a sans doute passé trop de temps dans la baignoire et ça. Elle avait une mauvaise position pour que ça avance correctement jusqu'au bout. Et donc là, voilà, la sage-femme, elle avait autorité sur Julia parce que moi, ça faisait déjà quelques longues minutes, voire heures, que je voulais qu'elle sorte de la baignoire, mais elle m'écoutait pas. Et donc la sage-femme lui dit de sortir de la baignoire, d'aller marcher un peu. Et là, elles sont allées dans les toilettes pour faire marcher la gravité, en fait, et que le travail reprend. La poche des os n'avait pas encore été percée. Et donc là, moi, c'était une phase de retrait parce que j'ai vu ma compagne, la sage-femme, dans les toilettes, dans un milieu très fermé. Et je me suis dit, là, sur ce moment-là, t'as pas ta place. Et on voit vraiment que c'est un truc de... Enfin voilà, que c'est un événement que les femmes maîtrisent naturellement. Et c'était super beau à voir parce qu'on voyait que c'était. Elles étaient toutes les deux dans leur bulle. Qu'elles savaient ce qu'elles faisaient toutes les deux. Et c'était vachement rassurant pour moi parce que c'était pareil. Hein, au moment, ça faisait déjà 13 heures qu'on était dans le rush. Moi, ça m'a permis de me retirer, de reprendre mes esprits.
Tu t'es pas senti exclu en mode le daron là reste bien à ta place, t'occupes plus de rien quoi, ça va aller.
Non, d'un côté ça m'arrangeait parce que j'avais besoin de reprendre un peu de peps, et puis j'ai trouvé ça beau comme moment en fait, et de me dire que voilà qu'il faut faire confiance aux femmes pour leurs accouchements, que ces sages-femmes font un travail mais vraiment incroyable. Je crois que j'ai jamais eu autant d'admiration pour un métier que celui de sage-femme, quoi. Et encore plus pour sage-femme à domicile. Et là, en fait, ça a marqué la dernière phase, qui est une des plus importantes quand même. Mais cette sage-femme, pareil, comme elle était moins, on va dire, présente que la précédente, elle ne nous tenait pas forcément au courant de l'avancée. Et à un moment, voilà, au bout de 14 heures, tu commences à fatiguer. Ma compagne commence à faire des micro-sommeils entre chaque contraction. Donc là, je me dis, non, mais c'est pas prêt d'arriver. Ça va pas finir, quoi. Et la sage-femme nous a donné le déclic. Elle est juste revenue dans le salon. Puis elle nous a dit, ah, bah, il a des cheveux, ce bébé. Et là, dans nos têtes, on s'est dit, ah, bah, ok, bah, c'est là, quoi. Et du coup, voilà, encore quelques minutes et elle est arrivée dans un moment incroyable parce que moi, je voulais pas être en position, ce que j'appelais la position de receveur. Je voulais pas être vraiment, tu vois, de ce côté-là du jeu.
Je comprends. Hein.
J'aime pas trop la vue du sang. Et puis après, un truc peut-être stupide, mais pour moi, je voulais garder le sexe de ma femme comme... quelque chose de sexuel en fait pour notre couple après, et je voulais pas transformer ça comme un instrument, un truc purement anatomique. Voilà, je voulais garder...
C'est pas stupide, hein, je pensais la même chose, tu vois. Donc après, peut-être qu'on est tous les deux stupides, mais ça reste un ressenti, quoi, tu vois.
Ouais, voilà, je voulais pas qu'après je repense à ça, bref. Et voilà, je voulais pas aussi que la vue du sang me fasse tourner de l'œil. Et donc j'étais près d'elle tout le temps, à côté de sa tête. Donc on a eu vraiment les mêmes visions, les mêmes sensations. Ça, c'était important pour moi. Et puis il y a un moment, bah voilà, on l'a entendu crier, mais juste des petits, pas des pleurs, quoi. On l'a juste entendu respirer. C'était incroyable. Ma compagne était accroupie. Et en fait, c'est la vision qu'on a de l'accouchement, de le bébé sort, les médecins le regardent, le mettent comme ça en pleine lumière et puis le posent sur la maman. Nous, on n'a pas du tout eu ça. La sage-femme a juste réceptionné le bébé et en fait a tendu son bras entre les jambes de ma compagne. Donc nous, on a entendu le bébé et on l'a vu apparaître entre les jambes de ma compagne, et c'est ma compagne qui l'a pris sur elle pour la mettre contre elle, quoi. Donc ça a été extraordinaire parce qu'on s'y attendait pas. Moi, je pensais, voilà, à la voir au milieu du salon, les bras écartés. Mais non, elle a été délicatement donc posée entre nous, quoi. Elle nous a été offerte comme ça.
C'est cool.
Et ça, c'était incroyable, quoi. Donc voilà.
Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Oui, j'allais dire. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, toi?
Moi, je commence à relâcher le truc, à commencer à me laisser envahir par mes émotions. Et donc tout se passe bien, enfin, c'est un moment incroyable. Et là, par contre, la sage-femme a fait une erreur. C'est que elle a très vite regardé le bébé, elle l'a dit, elle a un problème. Et là, moi, ça m'a coupé net. Mais je suis passé du point le plus haut du bonheur à retour à la réalité. Dans la même phase de concentration qu'avant, donc ça m'a complètement bloqué mon truc. Et elle l'a vu très vite et elle m'a tout de suite dit non, mais c'est pas grave. Elle est née avec un pied tordu parce que Julia avait un petit utérus et du coup le pied a poussé, appuyé contre la paroi de l'utérus, et donc il est parti à un moment pour se développer, il est parti un peu sur le côté. Et bah moi aussi, côté hypochondriaque qui revient, quoi. Et je me dis, bah, pourquoi ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Et moi, ça m'a bloqué mon truc, quoi. Ça m'a bloqué ma phase d'émotion. Après, le sentiment que j'ai rencontré, où je m'attendais pas du tout, c'est quand je l'ai vue, je suis tout de suite tombé amoureux d'elle, quoi. Et mais c'était incroyable, je m'étais pas du tout préparé à ressentir ça. Je pensais qu'il fallait, voilà, s'apprivoiser entre guillemets, mon bébé et moi, pour commencer à avoir des sentiments, et ça a été instantané, quoi. Et ça, c'était une sensation incroyable, quoi, de sentir son cœur gonfler, d'avoir une place pour elle. Donc voilà, les premières minutes sont, nous, on est un peu perdu par les émotions. On avait une exigence, c'est d'attendre que le cordon arrête de battre pour le couper. Donc ça, ça a été sympa aussi parce que voilà, c'est un bébé qui naît assez palichon très vite. Elle a pris des belles couleurs et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on pouvait faire à la maternité, parce que ça prend du temps, ça prend 20 minutes, une demi-heure. Et ça, c'était chouette, quoi, de l'avoir sur nous tout de suite. Et puis après, On coupe le cordon et la sage-femme me dit on va faire la délivrance, prenez votre enfant. Et là, elle me donne mon bébé en peau à peau. Et du coup, je suis tout seul dans l'appart avec elle. Julia est en train de se concentrer sur la délivrance. Et là, elle me regarde et j'ai l'impression qu'on se connaissait. De par l'aptonomie, elle connaissait ma voix, elle connaissait mon toucher. Elle était super calme. Je m'attendais à un bébé voilà, qui pleure, qui sent cet univers qui est froid, ses poumons qui fonctionnent, dont est un peu paniqué par son état. Et elle était super calme, super rassurée sur moi. Et ça, c'est pareil, c'était une sensation incroyable. Et j'ai pu prendre le temps que je voulais avec elle, tout seul, dans ses vraiment tout premiers instants de vie. Ça, c'était génial, quoi. Dans un univers aussi intimiste, de pénombre, de douceur, de chaleur, c'était fabuleux, quoi.
Écoute, merci pour ce récit, c'est cool.
Ouais, c'était incroyable. Après, voilà, il y a des choses avec l'accouchement à domicile où on s'attend pas. C'est par exemple une fois que la délivrance est arrivée, on vous laisse le placenta sur là où il est. Donc à la fin de l'accouchement, j'avais le placenta sur le tapis du salon. Donc voilà. Alors quelque chose de très particulier. Je voulais aussi que le premier acte de ce bébé ça soit aussi un don envers la nature, et donc j'ai donné le placenta à une famille de renards qui élevait ces jeunes et qui habite à côté de la maison. Donc je leur ai déposé devant le terrier,
okay,
pour leur dire voilà, le premier geste de mon bébé c'est un don envers le monde sauvage qui m'anime. Et c'était très important pour moi. J'avais réfléchi un paquet de temps à ça. Et je voulais que ça serve, quoi. Je voulais qu'il rentre dans le cycle de la vie, ce morceau de ma compagne, quoi.
Waouh. Je t'avoue que c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là, hein, tu vois. C'est cool.
Je t'ai dit qu'on était chelou, hein.
Non, mais en fait, en plus, je juge même pas, tu vois. Parce que quand tu dis chelou, ça fait un peu... Ça, c'est un peu une connotation négative. Je trouve que c'est assez fascinant, au contraire, de voir comment ton regard et ta passion et ton métier, tu vois, de naturaliste. Et j'imagine que de ce fait-là, toute ta vision d'une manière générale de la vie et de l'univers est basée aussi là-dessus, est teintée de tout ce que tu fais au quotidien. J'avais justement une question à te demander, c'est comment ça se passe, toi, en tant que jeune papa, là, maintenant? Parce que, donc, elle a quoi? Elle a un mois...
Ouais, un mois révolu, un mois, une semaine, ouais.
Comment ça se passe, toi, dans ta vie de jeune papa, en tant que, justement, observateur de la nature? Parce que j'imagine que c'est un vrai métier d'observer, tu vois?
Ouais.
C'est non seulement un métier, mais dans ma tête, c'est pas un truc passif, quoi, tu vois?
Non. Ouais. Parce qu'on s'interroge beaucoup et je porte le même regard sur mon enfant pour le moment, parce qu'en fait au début de notre vie on est incroyablement animal, quoi, et c'est hyper intéressant de voir comment on se développe un petit primate. Nous on a décidé de faire de la parentalité proximale dans les premiers mois, donc c'est on part du principe qu'elle doit être à notre contact pour être rassurée, pour être bien, donc elle est tout le temps avec nous. Elle passe pas beaucoup de temps à moins d'un mètre de nous. On l'élève comme des grands singes, quoi. Tout simplement, on se fait confiance aussi à notre instinct. On essaye pas de tout analyser de manière médicale ou dire ah bah là elle réfléchit à ci à ça. Et du coup pour moi cette façon de faire c'était assez naturel. Et le fait d'avoir ce regard-là, ça m'a permis dans les premiers jours de me sentir à l'aise en fait avec elle. Très vite, ça je m'y attendais pas aussi, parce que comme je t'ai dit, je connaissais pas du tout l'univers des bébés. J'avais jamais vu même comment une couche se dépliait, tu vois. Donc il y a eu tout ça, et ça s'est fait assez naturellement, et tout se fait encore un peu en douceur. Et j'essaye plutôt de voir, voilà, encore son côté, ses réactions d'un point de vue animal que d'un point de vue purement purement, on va dire, humain, avec un regard un peu scientifique, essayer de tout décrypter. On essaie un peu de marcher à l'instinct, quoi.
Ok. Le dernier sujet dont je voulais te parler, et dont en plus j'imagine que tu veux parler, c'est que donc tu nous racontais que tu étais naturaliste, mais Julia est aussi travaille dans l'écologie, c'est ça ?
Ouais, elle est ingénieure écologue, ouais.
Voilà, donc vous avez tous les deux un rapport assez proche de la nature, et on en parlait au tout début du podcast. Peut-être une vision un poil pessimiste sur ce qui se passe par rapport à l'état de la planète. Et en fait, tu me disais que tu aurais bien aimé aussi discuter de l'idée de faire un enfant aujourd'hui au 21e siècle, alors que cette planète se barre un peu en couille. Je t'avoue que c'est vraiment une discussion qui est de plus en plus récurrente, et le podcast est aujourd'hui 2 ans et demi, et j'ai la sensation que plus ça va, plus c'est un sujet qui revient, quoi, tu vois. J'aimerais bien avoir ton avis, toi, sur le sujet. Comment on fait pour se dire qu'on va faire un enfant ? Tu disais tout à l'heure ma plus grosse erreur écologique.
Exactement. Ça a été long. Ça a pris, je pense, pour ma compagne, ça a pris plusieurs mois, voire années. Nous, on a des amis qui ont fait le choix de pas en faire par souci d'écologie. Nous, on s'est longtemps dit, mais pourquoi faire naître un bébé dans ce monde-là ? Est-ce qu'on va pas lui offrir finalement une vie qui sera pas belle, quoi, à cause de ça ? Elle va certainement connaître des changements énormes que le reste de l'humanité n'a encore jamais connu. Et après, une fois qu'on a digéré ce sentiment-là, on s'est dit, mais pourquoi nous, naturistes, qui au quotidien se rendons sensibles, perméables à la nature, on essaye de que chaque geste soit pensé pour avoir un impact le moins prenant possible, pourquoi nous on ferait pas d'enfants et que les gens qui s'en préoccupent pas, eux, ils en feraient plein? Et ça m'a fait penser au film, je sais pas si tu connais le film Idiocratie, Stupide Planète, voilà. Et du coup, je l'ai re-regardé aussi pour confirmer cette théorie. Donc dans ce film-là, pour expliquer, les gens intelligents ne font plus d'enfants parce que leur vie est compliquée, ils sont carriéristes, ils finissent par se séparer avant de faire des enfants. Et le crétin de base fait plein d'enfants, et quelques siècles plus tard, la planète est remplie de gens stupides. Et là-dedans débarque un Américain moyen qui a voyagé dans le temps, enfin, bref, et qui se retrouve le plus intelligent de la planète, quoi. Et on s'est dit, bah ouais, mais en fait, c'est ça, quoi. Si tous les gens qui sont engagés pour la biodiversité, pour la planète, dans le monde, se privent de faire des enfants, au final, on va avoir une planète que de gens qui s'en foutent, quoi, qui élèvent leurs gosses sans leur inculquer ces valeurs-là. Et donc on s'est dit, bah allez, on y va pour aussi que notre enfant apporte sa vision au monde, qui j'espère sera dans ce sens-là, qu'on lui apportera une sensibilité. On veut pas du tout qu'il devienne comme nous, loin de là, mais on voudrait qu'il ait cette attention, en fait, qu'il soit pas seulement égocentré sur notre économie, notre société, mais se dire qu'il fait partie, voilà, de quelque chose de plus global, et qu'il faut en prendre soin, et que son avenir, sa santé, son épanouissement dépend, même s'il ne se rend pas compte, il dépend grandement de ça, quoi. Donc c'est à la fois le pire choix en termes d'empreinte carbone, mais on essaye de la réduire au maximum. On lutte tous les jours pour pas que cet enfant à un mois ait une empreinte carbone d'un Américain de base.
Il y avait un graphique là qui était sorti, je sais pas si tu avais suivi un petit peu sur Twitter, c'était l'AFP qui avait sorti ça, En gros, qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire votre empreinte écologique? C'était faire un enfant de moins.
Ouais, non mais c'est ça. Et puis après, il y a des études sur l'empreinte carbone des enfants qui sont juste effarantes, mais...
Même au-delà de ça, ça fait un être humain de plus sur Terre qui va, va finir par, même super écolo, finira par quand même consommer des ressources, quoi. Donc,
Ouais, bah ouais. Mais nous...
Ça se tord le cerveau, quoi.
Exactement. Et c'est pour ça que nous, ça a pris plusieurs mois. Et que, en fait, la discussion qu'on a eue au moment où on a voulu faire un enfant, c'était le sujet, c'était plus est-ce qu'on fait voilà, un enfant dans ce monde-là, plutôt que la question de base, est-ce que tous les deux on fait un enfant ensemble, quoi. Mais voilà, on a fait notre choix, on l'assume, et voilà, j'espère que ce sera un petit humain qui fera du bien à la planète, plutôt que l'inverse, quoi.
Ok. Bah, merci beaucoup. Merci aussi pour ce partage, Alexis. C'est cool d'entendre ton point de vue de personne au plus proche de la nature. Nous raconter un petit peu ta vision et en fait votre vision aussi avec ta compagne. La dernière question que je pose à tous mes darons, c'est imagine donc ta fille dans 10 ans qui tombe sur ce podcast et qui est devenu une sorte de chantre de la société de consommation et qui se plaigne dans les objets en plastique, etc. Et qui entend ça et qu'est-ce qu'elle va se dire? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Non, je déconne. Je suis en train de te pourrir ta question, je suis désolé.
Ouais, bah après, moi j'ai essayé de la préparer, cette question, ouais. Mais j'ai pas réussi. Alors je vais improviser. Moi, ce que j'espère pour elle, c'est qu'elle. Dans 10 ans, bah, elle aura que 10 ans. J'espère que on lui aura inculqué les bonnes valeurs. Donc, au-delà de l'écologie, je pense que ce qui peut vraiment sauver entre guillemets nos sociétés, c'est vraiment l'empathie. Mais l'empathie envers son prochain, l'empathie envers les autres êtres vivants. J'espère que on lui a apporté beaucoup de joyeux souvenirs. La banque de souvenirs de l'enfance, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus précieux pour s'accomplir ensuite. Donc j'espère qu'on a partagé des moments très heureux ensemble, que j'ai été à la hauteur, qu'elle n'oublie pas que c'est mon premier enfant et que j'improvise de A à Z avec elle.
C'était un voilà. D'accord, on verra que le deuxième, ça ira peut-être mieux avec ton petit frère ou ta petite sœur.
Voilà, exactement. Il ne faudra pas nous en vouloir si on est meilleur avec ton petit frère ou ta petite sœur. Mais j'espère qu'on lui aura inculqué que l'amour, le partage, l'expression de ses sentiments, c'est très important. Qu'on partagera de bons moments ensemble, qu'on se dira tout. Parce que comme la grande majorité, je pense... des gars de ma génération avec mon papa, on se parle pas beaucoup, donc j'espère que j'aurai su casser un peu ce cycle paternel et que je saurais discuter, parler ouvertement avec toi, voilà. Et puis commence à noter tes rêves et fais en sorte de les accomplir plus tard et garde-les bien avec toi et dis-toi toujours que peu importe le rêve, il est toujours on peut toujours l'accomplir si on s'en donne les moyens.
Et bah dis donc, c'est cool.
J'espère.
Bon, Alexis, merci beaucoup.
Et bah de rien, Fabrice, merci à toi de m'avoir laissé m'exprimer, de m'avoir permis de déballer tout ce parcours qui du coup on n'a pas parlé à beaucoup de gens, de sortir un peu de la clandestinité, de boucler la boucle, de s'il y a des darons qui m'écoutent, de leur dire que si c'est leur choix, c'est possible, qu'il faut y croire malgré les obstacles, quoi, et que c'est un moment incroyable. Et puis voilà, et je pense maintenant je pense tout le temps à ce métier de sage-femme et je me dis qu'il faut les soutenir, qu'elles ont un courage incroyable, et que j'espère qu'on va faire évoluer les choses, quoi. Que l'accouchement à domicile va, va être quelque chose d'accepté, rien que ça. Que ça soit accepté par le corps médical. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous, on a été un peu questionnés, titillés par la maternité à côté de chez nous, sur ça. Qu'on nous a pris pour des dangereux. Qu'on a appelé nos différents médecins pour leur dire « Ah, mais vous avez tous au courant qu'ils ont accouché à domicile, machin. » Donc, on appréhende un peu aussi les rendez-vous médicaux qui vont suivre, parce qu'on ne sait pas comment on va être reçu par notre gynécologue, par exemple, okay. ou notre médecin autonomiste, bref. Et que ça puisse se passer sereinement, encore plus en sécurité que ça l'est maintenant, et que les sages-femmes arrêtent de prendre des risques en faisant ça pour leur carrière, en fait, parce que ça brise des carrières. Il y a des sages-femmes qui sont mises à pied... qui n'ont plus le droit d'exercer, tout simplement. Et voilà. Et je soutiens, soutiens aux darons qui veulent faire ce choix, c'est possible, et qu'on peut tous, le faire si on a envie, quoi.
Bah écoute, je pense que le message sera passé auprès des sages-femmes, parce qu'il y a pas mal de sages-femmes qui écoutent Histoire de Daron. En tout cas, je reçois régulièrement des messages, donc ça leur fera sans doute plaisir. En tout cas, merci beaucoup.
Ouais. Et bah, merci à toi, Fabrice, merci beaucoup.
Et puis, bah, longue vie à vous trois, alors.
Eh bah, merci, ouais. On va faire tout pour. Merci, salut.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau, qui le 11 août 2020 a mis 5 étoiles en 10 ans. Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.